Chapitre 7. Question. Pourquoi as-tu créé deux sexes? Est-ce la seule façon que tu as trouvée d'imaginer comment nous allions nous recréer? Comment devrions-nous aborder cette incroyable expérience appelée sexualité? Réponse. Sans honte, c'est certain. Et sans peur, ni culpabilité. Car la honte n'est pas une vertu. La culpabilité n'est pas la bonté. Et la peur n'est pas l'honneur. Sans désir non plus. Car le désir n'est pas la passion, ni abandon, car l'abandon n'est pas la liberté, ni agressivité, car l'agressivité n'est pas l'ardeur. Et de toute évidence, sans idée de contrôle, de pouvoir ou de domination, car elles n'ont rien à voir avec l'amour. Mais, peut-on utiliser le sexe pour la simple gratification personnelle? Étonnamment, la réponse est oui, car la gratification personnelle n'est qu'un synonyme de l'amour de soi. La gratification personnelle a acquis une mauvaise réputation au fil des années, et c'est la raison principale pour laquelle une grande culpabilité est rattachée au sexe. On vous dit de ne pas utiliser pour la gratification personnelle une chose qui est intensément gratifiante au niveau personnel. Cette contradiction évidente vous est apparente, mais vous ne savez pas quelle conclusion en tirer. Alors, vous décidez que si vous vous sentez coupable d'avoir certaines sensations agréables, pendant et après l'activité sexuelle, cela arrangera au moins les choses. Ce n'est pas si différent de la célèbre chanteuse que vous connaissez tous, que je ne nommerai pas ici, qui reçoit des millions de dollars pour chanter. Lorsqu'on lui a demandé de commenter son incroyable succès et la richesse qu'il lui a rapporté, elle a dit « Je m'en sens presque coupable, car j'aime tellement chanter ». L'implication est claire. Si c'est quelque chose que vous adorez faire, vous ne devez pas en plus en recevoir une compensation monétaire. La plupart des gens gagnent de l'argent en faisant quelque chose qu'ils détestent, ou quelque chose qui est au moins un dur labeur et non une joie sans fin. Donc, le message du monde est, si vous avez des sentiments négatifs à l'égard d'une chose, alors vous pouvez y prendre plaisir. Vous utilisez souvent la culpabilité pour essayer de vous sentir mal à propos d'une chose qui vous fait du bien. Et ainsi vous réconcilier avec Dieu, qui, selon vous, ne veut pas que vous vous sentiez bien à propos de quoi que ce soit. En particulier, vous ne devez pas tirer plaisir des joies du corps, et absolument pas du, comme votre grand-mère le chuchotait, sexe, S-E-X-E. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il est parfaitement bien d'aimer le sexe. Il est aussi parfaitement bien d'aimer votre soi. En fait, c'est une obligation. Ce qui ne vous sert pas, c'est d'avoir une dépendance par rapport au sexe, ou à quoi que ce soit d'autre. Mais il est bien d'en tomber amoureux. Exerce-toi à dire ceci 10 fois par jour. J'aime le sexe. Exerce-toi à dire ceci 10 fois. J'aime l'argent. Maintenant, tu veux quelque chose de vraiment difficile? Essaie de dire ceci 10 fois. Je m'aime. Voici certaines autres choses que tu n'es pas censé aimer. Exerce-toi à les aimer. Le pouvoir, la gloire, la renommée, le succès, le gain. Tu en veux d'autres? Et c'est ceci. Tu devrais vraiment te sentir coupable si tu aimes ceci. L'adulation des autres, t'améliorer, posséder davantage, savoir comment, savoir pourquoi. Tu en as assez? Attends, voici l'ultime objet de culpabilité. Tu devrais te sentir, en définitive, coupable si tu as le sentiment de connaître Dieu. N'est-ce pas intéressant? Toute ta vie, on t'a rendu coupable à propos des choses que tu désires le plus. Mais je te dis ceci, aime, aime, aime les choses que tu désires, car ton amour pour elles les attire vers toi. Ces choses sont l'étoffe de la vie. Quand tu les aimes, tu aimes la vie. Quand tu déclares que tu les désires, tu annonces que tu choisis toutes les bonnes choses que la vie peut t'offrir. Alors, choisis le sexe, autant de sexe que tu peux en vivre. Et choisis le pouvoir, autant de pouvoir que tu peux en rassembler. Et choisis la renommée, autant de renommée que tu peux en atteindre. Et choisis le succès, autant de succès que tu peux en avoir. Et choisis de gagner, autant que tu peux. Cependant, ne choisis pas le sexe plutôt que l'amour, mais plutôt pour célébrer celui-ci. Et ne choisis pas le pouvoir sur, mais le pouvoir avec. Et ne choisis pas la renommée comme une fin en soi, mais comme un moyen d'atteindre un but plus élevé. Et ne choisis pas le succès aux dépens des autres, mais comme moyen d'aider les autres. Et ne choisis pas le fait de gagner à tout prix, mais le gain qui ne coûte rien aux autres, et même qui leur apporte un gain supplémentaire. Vas-y, choisis l'adulation des autres, mais considère tous les autres comme des êtres que tu peux combler d'adulation, et fais-le. Vas-y, choisis le fait d'être meilleur, mais pas meilleur que d'autres, plutôt meilleur que tu ne l'étais auparavant. Vas-y, choisis le fait d'avoir davantage, mais seulement pour avoir davantage à donner. Et oui, choisis le fait de savoir comment et de savoir pourquoi, afin de pouvoir partager toute cette connaissance avec d'autres. Et à tout prix, choisis de connaître Dieu. En fait, choisis d'abord cela, et tout le reste suivra. Toute ta vie, on t'a enseigné qu'il valait mieux donner que recevoir, mais tu ne peux donner ce que tu n'as pas. Voilà pourquoi l'auto-gratification est si importante, et pourquoi il est si malheureux qu'elle en soit venue à sembler si laide. De toute évidence, nous ne parlons pas ici de l'auto-gratification aux dépens des autres. Il ne s'agit pas d'ignorer les besoins des autres. De même, la vie ne devrait pas être à propos de l'ignorance de tes propres besoins. Donne-toi du plaisir en abondance, et tu auras un abondant plaisir à donner aux autres. Les maîtres du sexe tantrique savent cela. Voilà pourquoi ils encouragent la masturbation, que certains d'entre vous appellent en fait un péché. Question. La masturbation? Dis donc, tu dépasses vraiment la limite ici. Comment peux-tu soulever une telle chose? Comment peux-tu même le dire dans un message qui est censé venir de Dieu? Réponse. Je vois. Tu juges la masturbation? Question. Eh bien, je ne la juge pas, mais un bon nombre de lecteurs la jugent peut-être. Et tu as dit, je crois, que nous étions en train de produire ce livre pour d'autres. Réponse. C'est bien cela. Question. Alors, pourquoi les offenses-tu délibérément? Réponse. Je n'offense délibérément personne. Les gens sont libres de se sentir offensés ou non. C'est leur choix. Mais crois-tu vraiment que nous pourrons parler de façon sincère et ouverte de la sexualité humaine sans que quelqu'un choisisse d'être offensé? Question. Non, mais on peut aller trop loin. Je ne crois pas que la plupart des gens soient prêts à entendre Dieu parler de masturbation. Réponse. Si ce livre doit se limiter à ce que la plupart des gens sont prêts à entendre de la bouche de Dieu, ce sera un très petit livre. La plupart des gens ne sont jamais prêts à entendre ce dont Dieu parle au moment où Dieu en parle. Ils attendent habituellement 2000 ans. Question. D'accord, vas-y. Nous avons tous surmonté notre choc initial. Réponse. Bien. J'utilisais tout simplement cette expérience de vie, dans laquelle vous vous êtes tous engagés en passant, mais dont personne ne veut parler, pour illustrer un argument plus grand. Voici l'argument plus grand, reformulé. Donne-toi du plaisir en abondance, et tu auras un abondant plaisir à donner aux autres. Les maîtres de ce que vous appelez le sexe tantrique, qui, incidemment, est une forme très élevée de l'expression sexuelle, savent que si vous vous adonnez au sexe avec une fin de sexe, votre capacité de donner du plaisir à votre partenaire et de faire l'expérience d'une union joyeuse et prolongée des âmes et des corps, qui, en passant, est une raison très élevée de faire l'expérience de la sexualité, sera grandement diminuée. Par conséquent, les amants tantriques se donnent souvent du plaisir à eux-mêmes avant de s'en donner mutuellement. Ils le font souvent en présence de l'autre, et habituellement avec l'encouragement, l'aide et le secours affectueux l'un de l'autre. Puis, lorsque la faim initiale a été satisfaite, la soif plus profonde, la soif de l'extase par l'union prolongée, peut être satisfaite d'une façon splendide. Se donner du plaisir à soi dans un cadre mutuel, cela fait partie de la joie, du jeu, de l'amour propre à une sexualité pleinement exprimée. Cela fait partie d'un ensemble. L'expérience que vous appelez le coït, ou rapport sexuel, peut survenir à la fin d'une rencontre amoureuse de 2 heures, ou peut ne pas arriver. Pour la plupart d'entre vous, elle est à peu de choses près la seule raison d'être d'un exercice de 20 minutes. À vrai dire, 20 minutes avec un peu de chance. Question. J'étais loin de me douter que ce livre deviendrait un manuel de sexe. Réponse. Ce n'en est pas un, mais ce serait pas si mal. La plupart des gens ont bien des choses à apprendre à propos de la sexualité et de son expression si merveilleuse et si bénéfique. Néanmoins, je cherchais à illustrer un argument plus grand. Plus tu donnes de plaisir, plus tu peux en donner à quelqu'un d'autre. De même, si tu te donnes le plaisir du pouvoir, tu as plus de pouvoir à partager avec d'autres. Il en va de même pour la renommée, la richesse, la gloire, le succès, tout ce qui te fait du bien. En passant, je crois que le moment est venu d'examiner pourquoi telle ou telle chose fait vraiment du bien. Question. D'accord, je me rends. Pourquoi ? Réponse. Se sentir bien. C'est la façon, pour ton âme, de proclamer « voici qui je suis ». Tu t'es déjà trouvé dans une salle de classe où le professeur prenait les présences et où, lorsqu'il te nommait, tu devais dire « présent ». Question. Oui. Réponse. Alors, bien se sentir, c'est la façon, pour ton âme, de dire « présent ». Donc, un tas de gens ridiculisent l'idée qu'il faut faire ce qui fait du bien. Ils disent que c'est le chemin de l'enfer, mais je dis que c'est le chemin du paradis. Tout dépend, bien sûr, de ce que tu appelles faire du bien. Autrement dit, quel genre d'expériences te font du bien? Mais je te dis ceci. Aucune évolution n'a jamais été fondée sur le déni. Si tu évolues, ce ne sera pas parce que tu as pu te refuser des choses qui, tu le savais, te faisaient du bien, mais parce que tu t'es accordé ces plaisirs et que tu as trouvé quelque chose d'encore plus magnifique. Car comment peux-tu savoir qu'une chose est plus grande si tu n'as jamais goûté celle qui est moindre? La religion aimerait que tu la croies sur parole à ce propos. C'est pourquoi toutes les religions finissent par échouer. La spiritualité, par contre, va toujours réussir. La religion te demande de tirer des leçons de l'expérience des autres. La spiritualité te presse de chercher la tienne. La religion ne peut supporter la spiritualité. Elle ne peut vraiment pas la supporter. Car la spiritualité peut t'apporter une conclusion différente de celle d'une religion en particulier. Et cela, aucune religion connue ne peut le tolérer. La religion t'encourage à explorer les pensées des autres et à les adopter. La spiritualité t'invite à écarter les pensées des autres et à trouver les tiennes. Te sentir bien, c'est ta façon de te dire à toi-même que ta dernière pensée était vérité, que ta dernière parole était sagesse, que ta dernière action était amour. Pour remarquer jusqu'à quel point tu as progressé, pour mesurer ton degré d'évolution, examine tout simplement ce qui te fait du bien. Mais ne cherche pas à forcer ton évolution, à évoluer davantage, plus vite, en niant ce qui fait du bien, ou en t'en détournant. Se nier, c'est se détruire. Mais sache également ceci. L'autorégulation n'est pas la négation de soi. Régler son propre comportement, c'est le choix actif de faire, ou non, une chose à partir de ce qu'on décide soi-même d'être. Si tu déclares être une personne qui respecte les droits des autres, la décision de ne pas les voler, de ne pas violer ni piller, c'est guère de la négation de soi. C'est une affirmation de soi. Voilà pourquoi il est dit que l'évolution personnelle se mesure à partir de ce qui fait du bien. Si ce qui te fait du bien, c'est d'agir de façon irresponsable, de te comporter d'une façon qui, tu le sais, pourrait faire du tort à d'autres ou provoquer des difficultés ou de la peine, alors tu n'as pas beaucoup évolué. La conscience est la clé. Et les aînés de vos familles et de vos communautés ont pour rôle de créer et de répandre cette conscience chez les jeunes. De même, les messagers de Dieu ont la tâche d'augmenter la conscience chez les peuples, afin qu'ils puissent comprendre que ce qui est fait à l'un ou pour l'un d'entre eux est fait à tous ou pour tous, car nous ne faisons tous qu'un. Lorsque tu pars de l'idée que nous ne faisons tous qu'un, il t'est presque impossible de prendre plaisir à blesser quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle le comportement irresponsable disparaît. C'est selon ces paramètres que les êtres en évolution cherchent à faire l'expérience de la vie. C'est selon ces paramètres que je te dis, Accorde-toi la permission d'avoir tout ce que la vie a à offrir. Et tu découvriras qu'elle a plus de choses à offrir que tu n'en as jamais imaginé. Tu es ce dont tu fais l'expérience. Tu fais l'expérience de ce que tu exprimes. Tu exprimes ce que tu as à exprimer. Tu as ce que tu t'accordes. Question. J'adore ça. Mais pouvons-nous revenir à la première question ? Réponse. Oui. J'écris deux sexes, pour la même raison que j'ai mis le yin et le yang en toute chose, dans tout l'univers. Ils font partie du yin et du yang, ce mâle et cette femelle. Ils en sont l'expression vivante la plus élevée de votre monde. Ils sont le yin et le yang, dans la forme, dans l'une des nombreuses formes physiques. Le yin et le yang, l'ici et le là, le ceci et le cela, le haut et le bas, le chaud et le froid, le gros et le petit, le rapide et le lent, la matière et l'antimatière. Tout cela est nécessaire pour que tu fasses l'expérience de la vie telle que tu la connais. Question. Comment pouvons-nous le mieux exprimer cette chose appelée énergie sexuelle ? Réponse. D'une manière amoureuse, d'une manière ouverte, d'une manière ludique, d'une manière joyeuse, d'une manière audacieuse, d'une manière passionnée, d'une manière sacrée, d'une manière romantique, d'une manière drôle, d'une manière spontanée, d'une manière touchante, d'une manière créative, d'une manière nullement timide, d'une manière sensuelle et, bien sûr, d'une manière fréquente. Question. Certains disent que le seul but légitime de la sexualité humaine est la procréation. Réponse. Foutaise. La procréation est l'heureux effet secondaire et non la fonction logique de la plus grande part de l'expérience sexuelle humaine. L'idée que le sexe ne serve qu'à faire des bébés est naïve. Et le corollaire, que le sexe doive s'arrêter lorsque le dernier enfant est conçu, est pire que naïf. Cela viole la nature humaine, la nature que je t'ai donnée. L'expression sexuelle est l'inévitable résultat d'un éternel processus d'attraction et d'un flux rythmique d'énergie qui alimente toute la vie. J'ai inséré en toute chose une énergie qui transmet son signal dans tout l'univers. Chaque personne, animal, plante, pierre, arbre, tout objet physique émet de l'énergie comme un émetteur radio. Tu es en train d'envoyer de l'énergie, d'émettre de l'énergie. Maintenant, du centre de ton être dans toutes les directions. Cette énergie, qui est toi, se dégage en pattern de vagues. L'énergie te quitte, traverse les murs, survole les montagnes, dépasse la lune et plonge dans l'éternité. Elle ne s'arrête jamais. Jamais. Chaque pensée que tu as jamais eue colore cette énergie. Quand tu penses à quelqu'un, si cette personne est assez sensible, elle peut le sentir. Chaque parole que tu as jamais prononcée lui donne forme. Tout ce que tu as jamais fait l'affecte. La vibration, la vitesse, la longueur d'onde, la fréquence de tes émanations bougent et changent constamment selon tes pensées, tes humeurs, tes sentiments, tes paroles et tes actions. Tu as déjà entendu l'expression « envoyer de bonnes vibrations » et c'est vrai, c'est très exact. Alors, chaque autre personne, naturellement, fait la même chose. Ainsi, l'éther, l'air, entre guillemets, entre vous, est rempli d'énergie. C'est une matrice de vibrations personnelles, entrelacées, entremêlées, qui forme une tapisserie plus complexe que tu ne pourras jamais l'imaginer. Ce tissu est le champ énergétique combiné au sein duquel tu vis. Il est puissant et affecte tout, toi inclus. Tu envoies alors des vibrations nouvellement créées, car tu reçois les vibrations qui arrivent et auxquelles tu es sujet, et celles-ci, en retour, s'ajoutent à la matrice et la modifient, ce qui, à son tour, affecte le champ énergétique de tous les autres, qui affecte les vibrations qu'ils envoient, qui affecte la matrice, qui t'affecte, toi, et ainsi de suite. Alors, tu peux penser que tout cela n'est qu'une extravagante illusion, mais es-tu déjà entré dans une pièce où l'air est ici épais qu'on aurait pu le trancher au couteau? Ou as-tu déjà entendu parler de deux scientifiques travaillant au même problème, en même temps, de chaque côté du globe, chacun travaillant à l'insu de l'autre, et chacun arrivant à la même solution simultanément et indépendamment? Ce sont des événements courants, et ce sont certaines des manifestations les plus évidentes de la matrice. La matrice, le champ énergétique actuel, combiné au sein de tout paramètre donné, est une vibration puissante. Elle peut atteindre, affecter et créer directement des objets physiques et des événements. Chaque fois qu'au moins deux d'entre vous seront rassemblés en mon nom, tu connais la suite. Votre psychologie populaire appelle cette matrice d'énergie la conscience collective. Elle peut tout affecter sur votre planète, et c'est le cas. Les perspectives de guerre et les chances de paix, un bouleversement géophysique ou un calme planétaire, une maladie généralisée ou un bien-être généralisé. Tout découle de la conscience. Il en va de même pour les événements et conditions plus spécifiques de ta vie personnelle.